Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.
Canal Sud 92.2, bonjour à tous. C'est contre-histoire, bien sûr. Et le texte que je vais vous lire a été prononcé à la salle de la Mutualité en 1966 par quelqu'un de rare et de passionnant, dont les plus jeunes n'ont peut-être pas beaucoup entendu parler. Mais je vous souhaite une bonne écoute. C'était un vieux monsieur, mais avec un sens de l'humour considérable. Alors, bonne découverte. Agression majeure. Discours prononcé le 23 juin 1966 à Paris, lors de la réunion publique organisée à la Mutualité par le Mouvement contre l'armement atomique, MCAA, pour protester contre les essais nucléaires français en Polynésie. Une semaine après ce discours, la France allait faire exploser une première bombe atomique à Mururoa le 2 juillet 1966. Entre 1966 et 1986, un total de 193 essais nucléaires seront faits sur et sous les atolls de Mururoa et de Fangataufa.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Chers camarades et amis, dans quelques jours, l'État français va faire exploser en Polynésie française, près de Tahiti, aux environs de l'atoll de Mururoa, des bombes atomiques. A, type Hiroshima, mais appartenant à cette catégorie spéciale que l'on qualifie de bombe dopée, parce qu'on y a introduit certains perfectionnements qui les rapprochent en vertu explosive et donc en dignité meurtrière, qui les rapprochent des bombes thermonucléaires de type H. Il eût été inconcevable qu'à l'approche d'un pareil événement, les hommes qui se font honneur de représenter le mouvement contre l'armement atomique, contre tous les armements atomiques, n'élevassent pas une protestation indignée. Je dis les hommes, mais les hommes et les femmes, s'il vous plaît, monsieur Rostand. Nous protestons de toutes nos forces contre ce nouvel abus de la Nouvelle République. Nous protestons et nous accusons. Nous accusons d'abord pour la simple raison péremptoire que nous n'accepterons jamais que des prochains soient traités en cobayes, sous prétexte qu'ils habitent un archipel lointain.
Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Qu'on ne dise pas surtout, car ce serait ajouter la mauvaise foi à la mauvaise conduite, que ces explosions sont inoffensives, toute précaution ayant été prise pour que les populations n'en subissent aucun contre-coup fâcheux. Ce sont là des paroles creuses, car toute explosion atomique, où qu'elle se produise et quelques précautions qu'on prenne, libère à grande distance et bien au-delà de la zone dite dangereuse, des poussières radioactives qui, répandues sur le sol, dans les eaux, exerceront des effets nocifs sur tous les êtres vivants, y compris les êtres humains.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça.
Ces effets, alors même qu'ils ne sont pas apparents et immédiats, nous savons qu'ils comportent des dommages invisibles, ne se manifeste qu'à plus ou moins longue échéance, dommages infligés au patrimoine héréditaire et qui se traduiront par un vieillissement prématuré, par l'apparition de cancers ou de leucémies, ainsi que, dans les générations suivantes, par une augmentation du nombre de malformations, des infirmités, des monstruosités.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Qu'on ne prétende pas que les doses de radioactivité ainsi libérées sont trop faibles pour atteindre le seuil de la malfaisance. Tout au moins en ce qui concerne les altérations génétiques, il n'y a pas de seuil de nocivité. Toute augmentation, si légère soit-elle, de la radioactivité, élève le taux de mutation dans les cellules germinales et par suite contribue à dégrader les virtualités héréditaire des sujets exposés à ce supplément de radioactivité. Et encore, pour couvrir le champ d'une légitime inquiétude, faudrait-il tenir compte de tous les effets encore mal connus, voire inconnus, de la radioactivité due aux explosions nucléaires. Sans parler des surprises, des négligences, des erreurs toujours possibles au cours de telles opérations, et qui interdisent aux experts de l'atome de trancher avec suffisance et d'assumer d'un cœur léger la responsabilité d'une entreprise où la moindre défaillance technique se paye dans la chair d'autrui par d'irréparables dommages.
Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite.
Je sais bien, on se réfugie dans les sophismes, ces risques dont nous dénonçons la malfaisance. Les défenseurs des explosions nucléaires déclarent qu'ils sont admissibles, acceptables, tolérables. Ou encore, car la double négation est souvent employée, qu'ils ne sont pas inacceptables. Eu égard à l'importance de l'enjeu et à comparaison des autres risques que le progrès technique fait à tout moment courir aux individus, et notamment des risques que crée la médecine elle-même par les radioscopies, radiographies, radiothérapies, nous n'entrerons pas dans ce frauduleux débat. Il ne s'agit pas d'opposer le risque qu'on inflige aux Polynésiens avec ceux qu'on impose aux malades dans leur intérêt. Non plus qu'il n'est de mise de se souvenir que d'autres nations, antérieurement aux accords de Moscou, n'ont pas voulu se laisser arrêter par des scrupules qui devraient nous retenir aujourd'hui.
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilleux. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience...
Nous nous bornerons à affirmer que nous maintiendrons contre toutes les assertions de la propagande officielle que les explosions atomiques de Mururoa ne seront pas inoffensives pour la population et nous mettons au défi de nous contredire tout homme de bonne foi s'il est décemment informé. Cela suffit devant notre conscience pour autoriser notre protestation et fonder notre accusation. Ajouterons-nous que ces expériences, en dehors de leurs effets locaux, auront pour effet d'augmenter un peu partout une radioactivité qui, déjà, du fait de toutes les explosions provoquées depuis Hiroshima, a déposé du strontium radioactif dans les os de tous les enfants du monde. Qui, déjà, entre la radioactivité corporelle des Esquimaux, des Lapons et des Samoyèdes, qui, déjà, a fait aux États-Unis entre 1952 et 1959, la leucémie a augmenté de 300% chez les bovins et de 400% chez les porcins. Statistique terrifiante, puisqu'elle nous invite à penser qu'il doit en aller de même chez les humains.
En détruisant tout cet tordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia.
Comment est-il possible que devant ces menaces qui pèsent sur la santé de nos enfants, nous n'ayons pas avec nous tous les parents? Comment est-il possible que les explosions atomiques soient tolérées par les mêmes personnes qui, si la leucémie frappe un des leurs, sont assez chavirées par l'angoisse pour aller demander secours à tous les charlatans? Au regard de l'inquiétude que soulèvent ces menaces biologiques, les alarmes financières peuvent sembler mesquines. Mais tout de même, on ne passera pas sous silence les scandaleuses dépenses apocalyptiques, c'est le terme employé, car entraîner l'installation des bases nucléaires dans le Pacifique. Peut-on ne pas dénoncer, car ici le pécuniaire rejoint le biologique, peut-on ne pas dénoncer la honteuse disproportion qui existe entre les sommes là-bas englouties et les misérables crédits affectés chez nous, aux hôpitaux, aux laboratoires de recherche médicale, à l'hygiène publique, au logement, à l'assistance aux vieillards, aux infirmes, aux enfants inadaptés? Comment ne pas dénoncer la révoltante disparité entre les budgets de la mort et les budgets de la vie? Entre la munificence dont on fait preuve pour ce qui tue et qui détruit et la lésinerie pour tout ce qui soulage ou qui sauve. Et comment, en cette période de juste revendication, ne pas flétrir l'impudence d'un régime qui, au nom d'une illusoire stabilisation des prix, reste sourd aux plus pressantes revendications des travailleurs, alors qu'il s'est bien trouvé dans la caisse publique les centaines de milliards nécessaires à l'équipement d'un centre nucléaire et aussi, sans doute, destiné à dorer la pilule atomique aux victimes de ces expérimentations.
Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Répondons enfin à la question essentielle, pourquoi ces coupables dilapidations qui saignent à blanc notre pays? Pourquoi ces explosions malfaisantes? Afin d'offrir à la France le cadeau empoisonné de la force de frappe. Et c'est contre cela peut-être surtout que nous protestons ce soir. Nous protestons comme nous avons protesté hier contre l'implantation des fusées nucléaires en Haute-Provence, comme nous protesterons chaque fois que sera franchie une nouvelle étape dans la militarisation de l'atome. Et je sais bien que sortant d'ici du plan de la biologie, je m'expose à être taxé d'incompétence et renvoyé à mes grenouilles. Mais je dirais quand même tout net ce que j'ose penser. De la force de frappe, je dirais qu'elle ne peut être qu'un simulacre ou une folie, puisqu'elle ne peut être employée sans provoquer instantanément la riposte qui anéantirait le vulnérable hexagone. Je dirais que ce qu'on appelle notre indépendance atomique n'est que le droit au suicide solitaire. Je dirais que la force de frappe nous expose au lieu de nous protéger. Elle n'est pas un bouclier, mais une cible. Je dirais qu'elle donne au monde le mauvais exemple en incitant à la dissémination des armes nucléaires, qui est le plus redoutable de tous les périls, et comme la généralisation du cancer atomique. Je dirais, car j'ai entendu sur ce point Hélène Langevin, et j'ai plus confiance en elle que dans les élucubrations de nos ministres, je dirais que loin de servir la recherche scientifique, elle détourne de la recherche fondamentale des multitudes de chercheurs, qu'elle exténue le pays, qu'elle entrave le progrès social et culturel. Je dirais qu'elle bafoue une tradition de générosité et de pacifisme qui faisait jusqu'ici le meilleur de notre héritage spirituel. Je dirais que loin de grandir la France, elle la rapetisse, car le chemin de la bonne grandeur ne passe pas par les usines d'assaut. À ce propos, je veux vous rappeler brièvement, car elles sont ignorées de beaucoup, les inquiétantes conditions dans lesquelles doit être employée notre force de frappe.
Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville.
C'est à Taverny, joli petit village de Seine-et-Oise, que siège le centre opérationnel des forces aériennes stratégiques de la France. Là, en de vastes carrières de gypse, se tiennent en permanence 6 hommes. 6, pas un de plus, pas un de moins. Qui peuvent ou qui pourront, l'an prochain, donner le signal de départ au fameux Mirage 4, porteur des bombes dont on va précisément faire l'essai demain à Mururoa. Ils sont, comme de juste ces 6 hommes, bien protégés et soignés. Ils respirent de l'air filtré et conditionné. Ils disposent de 5 tonnes de vivres. Ils boivent de l'eau pure, captée, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Une fois le signal lancé, nulle reprise, nul repentir possible. Les bombes seront larguées sans hésitation ni murmure. Un coup, il n'y en aura pas 2. On lâche le paquet et on attend la réplique mortelle. C'est le harakiri atomique, c'est ce qu'on appelle, avec un humour militaire, l'opération survie. Naturellement, ce ne sont pas ces 6 hommes, ces pauvres 6 hommes innocents, qui prendront la fatale décision. L'ordre criminel, l'ordre suicidaire, transmis en 2 messages codés indépendants l'un de l'autre et dont la réunion décide la foudre.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. y avait une ville.
L'ordre criminel émanera d'un seul personnage, le président de la République. Les autres nations disposant de l'arme atomique montrent plus de souplesse dans la stratégie. Elles admettent le principe de l'escalade qui est quand même un progrès dans l'horreur, un grain de sagesse dans la folie. Mais la France, elle, répudie cette doctrine, car tout son espoir de dissuasion repose sur cet avertissement solennel et démentiel, sur ce monstrueux engagement de répondre par des représailles massives à toute agression majeure. Agression majeure. Et qui décidera si l'agression est ou non majeure? Bien sûr, le président de la République. Toute notre chance de survie nationale tient à la façon dont sera entendu le mot « majeur ». Et vous conviendrez avec moi qu'il est assez alarmant de penser que le destin de la France, que la vie de tous les Français, tient à la façon dont un seul homme interprète un seul mot. Quelle puissance, n'est-ce pas, ce président de notre République ? Un peu trop pour mon goût, je l'avoue. Et de toute manière, quel devrait-il être cet homme seul, pour que nous lui fassions un tel crédit, pour que nous consentions à déposer notre sort entre ses mains? Quelle garantie serions-nous en droit d'exiger quant à son caractère, son tempérament, son équilibre, sa sensibilité, son discernement, sa pondération, sa loyauté, son scrupule, sa sûreté d'appréciation, son respect de la vie humaine? Il nous faudrait alors pour président, n'est-ce pas, un homme qui n'ait jamais menti à son peuple, qui n'ait jamais trompé personne, un homme qui ne confonde pas orgueil et patriotisme, un homme qui songe aux Français plus qu'à la France, un homme qui se soucie du bien public plus que de la statue qui l'attend dans l'histoire. Un homme sans mesquinerie et sans rancune, qui a assez de noblesse pour faire grâce à un ennemi. Un homme qui n'ait pas déjà du sang sur les mains. Un homme qui répugne au pouvoir personnel. Un homme extrêmement respectueux de la légalité républicaine. Un homme qui ne joue pas au président Soleil et n'aspire pas à dormir à Trianon. Qui ne se prennent pas pour Jeanne d'Arc, un homme qui ne pense pas que l'univers s'arrête parce qu'il mange du caviar à Moscou, un homme qui ne change pas de doctrine suivant les appétits de sa vanité, un homme qui puisse durant quelques semaines se passer d'acclamations et de marseillaises, un homme qui ne redoute pas la vérité, eût-elle un parfum parabouseux, un homme enfin qui soit un brave homme, plus encore qu'un grand homme. Jusqu'en ces dernières années, ce n'était pas tellement grave d'être président de la République, et je vous avoue que pour ma part, je n'évoque pas sans quelque nostalgie l'image de nos braves et bénins présidents de naguère, qui n'avaient pas en main le jouet atomique, et d'ailleurs n'eussent pas eu le goût de le manier. Ajouterais-je que la manière dont notre président est maintenant choisi depuis que l'élection s'opère au suffrage universel, cette manière n'est pas pour nous donner tout apaisement quant à la qualité de la personne élue.
Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher.
Quoi ? Cet homme tout-puissant, cet homme formidable, ce dispensateur de foudre, ce Jupiter, en veston ou en jaquette, qui peut d'un geste lancer la foudre. On le choisit sur quelques exhibitions de petit écran, sur quelques parades frelatées. On le choisit sur son maintien, sur sa prestance, sur son débit, sur son bagout, sur sa verve s'il en a. sur son sourire, voire sur l'éclat de sa denture, sur le timbre de sa voix, sur son air de bonhomie ou d'autorité, sur sa façon de se croiser les bras ou de se taper sur les cuisses. En fait, sur son art de comédien et son astuce de camelot. Allons donc, ce n'est pas sérieux. Mon ami le docteur Laforgue, qui était un grand psychanalyste, me disait jadis, au moment où Hitler allait accéder au pouvoir, que tout homme ambitieux de gouverner un pays devrait avoir subi une psychanalyse. Et ce mot m'est souvent revenu à l'esprit. Car plus que jamais aujourd'hui, compte tenu des monstrueux pouvoirs dont dispose le chef, une telle précaution serait de mise. Est-il admissible que l'homme ayant la main sur le bouton atomique puisse avoir l'inconscient tout chargé de complexes, qu'il puisse être sous des dehors brillants, un instable, un impulsif, un égocentrique, un caractériel, un mégalomane, un paranoïaque, un arriéré affectif? Quoi? Pour un malheureux chauffeur de taxi, on exige des examens périodiques quant à sa tempérance et à la sûreté de ses réflexes, quant à l'acuité visuelle. Et pour l'homme qui conduit la France, qui peut en quelques minutes la faire verser dans l'abîme, nul contrôle, nulle garantie d'équilibre et de santé psychique? Si j'avais voix au chapitre, je demanderais que le permis de conduire l'État fut délivré par des psychiatres. Abolir la force de frappe, faire avorter les espérances des lugubres généticiens qui nous annoncent déjà les caractéristiques d'une deuxième, voire d'une troisième génération de bombes, soustraire le pays au hasard de cette infernale pétanque, lui rendre l'innocence atomique en éliminant ce méchant paratonnerre qui appelle la foudre, ce boomerang qui reviendrait au centuple. Restituer ses véritables dimensions à une France qui pourrait être grande par la sagesse, alors qu'elle est si petite par la force. La retirer de cette absurde course aux mégatonnes où elle s'épuise et se stérilise et se disqualifie, voilà quel devrait être le souhait majeur de nos concitoyens. Et plus généralement, travailler à la destruction de tous les armements atomiques, à l'extermination des engins qui visent à exterminer l'homme, devrait être l'objectif final de tout bon citoyen du monde, la saine obsession de tout membre raisonnable de la famille humaine. Au regard d'une si haute visée, qu'est-ce qui ne paraîtrait accessoire, subsidiaire, byzantin? Et comment se peut-il que nous soyons si peu à nous insurger contre une menace qui devrait nous trouver tous coalisés contre elle? Ah, ne gaspillons pas nos fureurs, ne galvaudons pas nos colères, soyons ménagés de nos indignations, tant que se dressent quelque part des usines d'armes atomiques. On nous reproche volontiers de faire de la politique, mais il s'agit de bien autre chose, de morale et d'hygiène planétaire. On nous accuse d'être trop violents envers l'armement atomique. Je crois que c'est lui qui a commencé. Nos ressentiments sont encore loin du compte. Et si demain surviennent de nouveaux Hiroshima, je crois que les survivants feront plutôt grief à notre tiédeur et à notre mollesse. Je l'ai dit bien des fois, mais je veux le redire ce soir, il n'y aurait pour l'humanité qu'une solution honorable. Ce serait que les hommes de science, que tous les hommes de science en tous les pays, refusent leur concours à la fabrication des armes nucléaires. International des hommes de science, objection collective de conscience. Les hommes de pensée faisant grève à l'industrie de mort, voilà qui serait digne, voilà qui serait beau, voilà qui redonnerait à la science le crédit moral qu'elle est en train de perdre en acceptant de se faire la complice des plus ignominieux projets. Hélas, nous savons bien qu'il ne s'agit là que d'un naïf et généreux fantasme, tout juste capable d'inspirer un beau film à Léonide Mogi. Nous savons bien, hélas, qu'en tout pays, les hommes de science sont, comme les autres hommes, captifs de leurs préjugés, et honnêtement persuadés qu'ils doivent aider à la préparation de la guerre atomique pour servir leur pays ou leur idéologie. Et peut-être même se persuadent-ils qu'ils servent ainsi la paix. Ne comptons pas sur eux. Alors faut-il désespérer ? Non, peut-être, car il y a des peuples. Les peuples toujours victimes, toujours payeurs, toujours dupés, toujours saignants. Et qui devraient un jour, enfin, former un monde uni pour secouer la dictature atomique. Et dans ces peuples, il y a les jeunes, puisque les vieux nous ont tellement déçus. Les jeunes, non encore pervertis par l'esprit de haine et de violence, non encore contaminés par la stupidité chauvine, par le stupide réalisme qui nous a tant de fois conduits à la catastrophe. N'est-ce pas à eux, d'abord, qui refusent de périr sous les forces de frappe, qu'il appartient d'exiger le désarmement atomique ? N'est-ce pas à ceux qui ont l'avenir devant eux de faire en sorte qu'il y ait un avenir ? N'est-ce pas à eux d'imposer un monde respirable où la civilisation ne transige plus avec la barbarie, où la paix ne soit plus déshonorée d'être fille de la terreur ? Un monde où l'on n'aurait plus à craindre à tout moment que l'homme succombe, sottement, niaisement, ridiculement, aux effets d'une science mal gouvernée. Un monde où il n'y aurait plus nulle part d'arsenal atomique, de tanière atomique, de banc d'essai atomique, de président presse-bouton.
Et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges ? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement.
Notre lutte contre l'atome de guerre, il nous faut la poursuivre. En face de ces usines de mensonges que sont les télévisions, les radios, les journaux à grand tirage, nous ne sommes que de tout petits artisans de la vérité. La consigne, vous le savez, est formelle. Ne faire nulle peine, même légère, aux marchands de mégatonnes. Ne savons-nous pas avec quelle discrétion la presse signale nos réunions, nos meetings, nos congrès, nos marches, enfin toutes ces manifestations de notre haine féroce? Il n'y a guère que le canard enchaîné qui ose parler un peu de nous. Je salue au passage le libre palmipède. Dans peu de jours, mesdames et messieurs, l'explosion de bombes atomiques françaises va secouer les îles coralliennes du Pacifique. Dans quelques jours, la folie nucléaire va déployer son affligeant syndrome en ces calmes paysages, tout plein du souvenir de Paul Gauguin, et dont la télévision, hier encore, osait nous rappeler comme ils incitent à la joie de vivre. Je ne sais pas comment cela se passera. Mais je sais qu'on nous affirmera que tout s'est passé au mieux. Ce sera un bulletin d'allégresse et de victoire. Je vois d'avance les fières manchettes de nos quotidiens. J'entends les libres propos de nos libres speakers. On décrira la majestueuse ascension du champignon. Les bombes dopées auront fait merveille, égalant ou même surpassant leurs cousines chinoises. Bien sûr, A n'est pas H. Et ça boumera mieux la prochaine fois. Mais d'ores et déjà, quelle réussite pour l'habileté et la ponctualité de la technique française! On pavoisera, on se congratulera. Il y aura des promotions, des nominations, des distributions de croix de je sais pas quoi. Peut-être aurons-nous droit sur le petit écran au trémoussement des vaïnés. Et reverrons-nous des colliers de fleurs au cou de notre premier ministre.
Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent. virent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville.
Sur les nouvelles données fournies par les éclatements polynésiens, l'état-major pourra gamberger à son aise et fignoler sa logistique. Nos valeureux stratèges s'en sentiront tout ragaillardis, et de braves généraux, dignes d'être conviés à goûter par Boris Vian, accoucheront d'un nouveau plan de manœuvre qu'on croira dicté par le père Ubu. Et bien sûr, toutes les précautions auront été prises, et au-delà, les normes de sécurité auront été respectées. Aucune erreur, aucune défaillance. Tout aura fonctionné proprement, sans nul danger pour personne, ni dans le présent, ni dans l'avenir. À peine si quelques oiseaux furent un peu gênés dans leur vol, si quelques poissons ont mis le ventre en l'air.
Et y a plus rien, y a plus rien que des êtres, de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai.
Mais au milieu de l'euphorie générale, nous saurons, nous, que ce jour de fierté fut un jour de honte. Nous saurons qu'il fut une insulte à la paix, une défaite pour l'homme, un échec pour la civilisation, un défi à l'avenir. Nous saurons qu'à dater de cette mauvaise heure, des enfants un peu partout porteront un peu plus de strontium radioactif dans leur squelette. Nous saurons que des infirmes, des débiles, des tarés, des monstres de toutes sortes sont désormais condamnés à naître qui n'eussent pas dû venir à l'existence. Nous saurons qu'aux tristes fleurs d'Hiroshima, n'est-ce pas, chère Edith Maurice, vont bientôt se mêler celles de Mururoa. Nous saurons qu'un coup bas a été porté au protoplasme humain, qu'on a trempé dans le génocide, qu'on a travaillé pour le cancer, fait le jeu de la leucémie. Qu'on a lâchement collaboré avec la mort. Nous saurons que par ce nouveau fracas, des échos furent éveillés, générateurs d'une exécrable émulation. Nous saurons qu'on a fait encore un bout de chemin dans la voie qui mène à tous les désastres. Nous saurons qu'une fois de plus, la soi-disant civilisation a démontré sa foncière barbarie en colportant sa sale marchandise. Nous saurons qu'une fois de plus, la science s'est reniée en la personne de quelques savants dont on aime mieux ne pas connaître le nom. Nous saurons qu'on a pactisé avec le mal, manqué au respect de la vie, trahi la cause de l'espèce. Nous saurons qu'on a ruiné les espoirs, anéanti les rêves. Nous saurons qu'on a menti à la vérité profonde du pays en jetant de l'ombre sur une France qui rayonnait par Jean Jaurès, par le docteur Schweitzer, par Albert Camus.
Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, 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 réveillez-moi.
Vaines sont nos protestations de ce soir, et cela aussi nous le savons. Nous n'empêcherons rien, nous n'arrêterons rien, et nous ne pensons, certes, comme Cyrano, que c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Mais nous pensons tout simplement que cela est nécessaire, bien qu'inutile. N'est-ce pas ainsi d'ailleurs que Jean Cocteau définissait la poésie ? Soit, ce soir, nous sommes des poètes. Il fallait bien qu'un peu de vérité fût criée sur les choses graves qui demain vont avoir lieu là-bas. Il fallait que quelques hommes, tout au moins sans ambition ni sans crainte, se désolidarise de l'imminente vilenie et se fasse entendre de ceux qui, en tout lieu, à haute voix ou dans le secret de leur cœur, protestent et accusent comme nous, inutilement, désespérément, poétiquement, mais furieusement. Et n'oublions pas que c'est un poète aussi immortel par le civisme que par le génie, Victor Hugo, qui lançait du fond de sa terre d'exil ces deux vers calmes et vengeurs qu'à toute époque on aime se répéter quand triomphe la mauvaise cause. Ce serait une erreur de croire que ces choses finiront par les chants et les apothéoses. À Dijon Rostand, le 23 juin 1966. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonjour tout le monde.